Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Studio Zef pour une émission spéciale dans la rubrique « Et si on en parlait ?». Oui, on va parler aujourd'hui des stéréotypes de genre avec sur le plateau Mélanie, Victor, Fadila, Marie et au téléphone Amélia aussi. Donc bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Voilà, alors c'est un vaste sujet, donc on va essayer de commencer. Alors moi j'aimerais bien d'abord que vous vous présentiez chacun et chacune votre tour, que vous vous présentiez par rapport à vos activités, à vos missions. Donc peut-être Mélanie, tu veux bien commencer ?
Oui.
Allez, c'est parti.
Alors bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Mélanie Pasteur, je travaille à l'ALEP, Association de loisirs et d'éducation populaire, à Blois, à l'espace Quinière. Je suis médiatrice culturelle à l'ALEP. Alors, l'ALEP, en deux, trois mots, donc c'est une association qui organise des activités de loisirs à l'année pour les personnes qui veulent faire des activités du type sportive, culturelle, musicale, de danse, voilà. Il y a tout un pan culturel avec un festival de théâtre, des concerts, des conférences gesticulées, des voyages, des sorties, des stages, et puis des projets aussi plutôt éducation populaire, dont le projet sur le genre et l'égalité femmes-hommes fait partie.
Oui, ça fait longtemps, hein, vous réfléchissez et travaillez là-dessus, il me semble. Hein.
Oui, depuis septembre dernier, voilà. Septembre 2018.
Ça te tenait particulièrement à cœur, si j'ai bien compris.
Oui.
Donc tu as réussi à convaincre tes collègues.
C'est ça, ouais. C'est ça. On s'est entouré de pas mal de personnes qui sont convaincues aussi. C'est chouette.
C'est bien. Merci Mélanie. Victor ?
Oui, bonjour. Moi, c'est Victor Pinault et je suis réalisateur de films documentaires et animateur d'ateliers qui ont pour vocation de permettre à des collectifs ou des associations de prendre en main les outils documentaires pour de vidéos, pour parler de leurs projets, pour permettre de diffuser leurs actions. Donc ça veut dire apprendre à filmer, apprendre à prendre le son, à monter et après toutes les questions de diffusion aussi. Voilà.
Tu as été sollicité par l'ALEP ?
Oui, c'est ça. J'ai travaillé pour eux l'année dernière sur un autre projet autour des 50 ans de l'ALEP, avec qui on avait réalisé 5 courts-métrages sur ce que faisait l'ALEP. Et un de ces courts-métrages, c'était un premier débat mouvant autour de la question du genre. Et comme c'est des questions qui m'intéressent beaucoup... Virginie m'avait proposé qu'on continue ce projet.
Virginie, la directrice de l'ALEP.
Voilà.
Merci. Fadila ?
Oui, bonjour. Moi, c'est Fadila Driss. Donc, je suis médiatrice culturelle à l'Espace Mirabeau. L'Espace Mirabeau est un centre social qui abrite également un centre multi-accueil pour les 0-3 ans. Moi, j'organise... beaucoup de sorties, j'amène les gens les plus éloignés de la culture vers la culture, mais pas que. Et je travaille énormément, je monte des projets avec les associations. Et l'ALEP est venue m'interpeller au mois de janvier pour me proposer le projet. Tout naturellement, en fait, ça m'a beaucoup intéressée. Ce qui fait que l'Espace Mirabeau, en fait, s'inscrit en fait, dans le partenariat. Alors moi, c'est un peu particulier puisque du coup, je fais partie du projet, mais j'y ai impliqué les habitants et les adhérents du centre. Aucun intérêt pour moi de mener ce projet seul.
Bien sûr.
Aujourd'hui, tous les ateliers qui sont menés autour de ce projet sont portés par les habitants et les adhérents et moi, je les accompagne.
Et cette adhésion au projet a été assez facile dans l'ensemble ?
Parce que c'est le genre de projet en fait que j'accompagne ou que je peux porter moi-même. C'est des projets que je peux mener, par exemple sur la semaine L, avec effectivement des questions un peu récurrentes sur l'égalité homme-femme.
Marie, un petit mot.
Donc bonjour, je suis Marie Marchand, je suis adhérente au Centre social Mirabeau et bénévole. J'y fais des activités pour moi-même et j'encadre aussi des ateliers. Bon, j'ai découvert plus le projet au Festival Mixtère. J'ai fait des prises de vue pendant les interviews. C'est comme ça que j'ai un peu plus découvert le projet.
Amélia, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Oui, alors moi je suis Amélia Bréchet, je suis clown et professeure de théâtre. J'ai été sollicitée par l'ALEP pour amener toute la partie débat mouvant et recueillette de paroles d'habitants autour des discriminations de genre.
Ouais. Voilà. Je t'ai vu à Mixter à l'œuvre, donc tu procèdes comment ?
La particularité, la petite invention qu'on a faite ensemble, c'est de proposer les interviews et les autres outils d'éducation populaire tels que le débat mouvant en clown. Où moi, du coup, je suis avec mon personnage qui s'appelle Bouchon. Et c'est lui qui procède à toutes ces choses incroyables.
Oui.
Avec les habitants.
Oui, parce que forcément, ça provoque effectivement non seulement du dialogue, mais aussi de l'émotion, j'imagine.
Oui, et puis les filles avaient l'air de dire aussi que ça permettait de dégenrer l'intervieweur, c'est-à-dire que les gens n'ont pas l'impression de s'adresser à une femme, mais à une sorte de créature qui n'aurait pas de genre.
Ouais.
Et du coup, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent plus facilement se dire.
Oui. Mélanie, est-ce qu'on peut revenir donc sur l'origine du projet ?
Alors ça a commencé, on a commencé à en discuter, je crois en juillet 2018, quand on était en train de parler de la programmation culturelle de la saison suivante. Et on avait rencontré Séverine Gibert qui travaillait dans l'éducation populaire. Elle avait son activité et elle faisait du débat mouvant, des cafés-conférences, choses comme ça. Donc on avait dit qu'on ferait une soirée comme ça, débat mouvant, café-conférence, au départ sur l'éducation populaire. Et puis après, on s'est dit pourquoi pas axer sur quelque chose en particulier. Et vu qu'à l'ALEP, alors moi particulièrement, c'est un sujet qui me touche beaucoup, les discriminations de genre. Et à l'ALEP, on était à peu près toutes et tous d'accord, parce que Victor était déjà là à ce moment-là. Donc on en a discuté avec Séverine et on a fait le 27 septembre 2018 cette soirée, cette fin de journée débat mouvant sur ces questions-là. Et avant ça, on était allé en recueillette de paroles auprès des habitants du quartier pour leur poser des questions sur ce qu'ils pensaient de l'égalité homme-femme, des discriminations de genre, des différences entre les petits garçons et les petites filles. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent ?
Et alors, ça va. On ne savait pas toujours si c'était de la bien-pensance et s'ils le pensaient toujours vraiment ou si c'est ce qu'il fallait dire. Mais en tous les cas, à peu près à chaque fois, c'était ce qu'on entendait, c'était des choses pas trop dures à entendre, sauf parfois des personnes. Je me souviens d'un monsieur, on était avec Victor et Virginie, qui avait l'impression de dire que voilà, c'était les hommes et les femmes étaient égaux, mais c'était très paternaliste. Je ne sais plus ce qu'il disait, Victor, je ne sais pas si tu te souviens, mais...
Ah oui, je me souviens que la sensation que j'avais eue avec cette première recueillette, c'était que il y a quelque chose de politiquement correct. Je pense qu'aujourd'hui, comme on en a beaucoup parlé ces derniers temps, ces dernières années, c'est politiquement correct, le discours est intégré. C'est beaucoup de personnes, mais ce monsieur avait encore du mal effectivement à l'intégrer, ou ça venait en confrontation avec des idées qu'il avait qui étaient peut-être plus profondes. Mais c'est vrai que dans la rue, globalement...
C'était pas une majorité, en tout cas, ces discours-là, un peu paternalistes. Ouais. C'était plutôt... les gens étaient plutôt d'accord avec ça. Après, même si ils disaient bien que chez eux, ça se passait pas forcément comme ça, mais c'est des choses à déconstruire aussi. Mais les gens étaient plutôt d'accord avec l'idée de l'égalité.
Fadila, pour revenir à vos actions à Mirabeau, vous avez utilisé ce genre d'expression, par exemple le débat mouvant, etc., ou vous avez fait connaissance avec ce principe, avec l'ALEP ?
Alors non, j'ai jamais utilisé, moi, sur mes actions, ni aucune activité d'ailleurs, le débat mouvant, et je l'ai découvert là avec ce projet. Voilà quelque chose de très intéressant finalement, parce que du coup, on a une idée, et puis finalement, quand on entend l'autre en face, on se dit « Ah bah oui, il a peut-être raison, donc du coup, je vais changer de côté. » Et en fait, c'est assez, c'est super intéressant, vraiment, vraiment.
Ouais. Marie, est-ce que vous avez participé à un débat mouvant sur les stéréotypes de genre ?
Non, je n'ai jamais participé. Je suis comme Fadila, j'ai découvert le projet lors de Mixter, quand on a fait les interviews.
Oui. Et alors, vous avez filmé par contre les...
Oui, moi j'ai filmé. C'est ça, hein. Oui, Victor m'a conseillé. Et puis, y avait Amélia qui posait les questions.
Ouais.
Puis vous avez fait plutôt la recueillette de paroles, en fait, les premiers entretiens. Et c'est une autre adhérente qui a pris la caméra au moment du débat mouvant, voilà. De mémoire.
Moi, j'ai recueilli les,
plutôt
paroles.
Un à un,
Amélia, est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail le principe du débat mouvant?
Oui, alors ce qui est assez étonnant dans notre parcours, c'est que moi, à la base, je ne suis pas issue d'une association d'éducation populaire. Mais par contre, j'ai un peu une culture militante qui m'a fait fréquenter l'Engrenage, notamment à Tours, STAJ, toutes les grosses associations d'éducation populaire du coin.
Ouais.
Parce que moi, je suis de Tours, du coup.
Ouais.
Mais ce n'est pas des outils que j'ai utilisés, moi, en tant qu'animatrice, quoi.
D'accord.
Le principe du débat mouvant, c'est proposer des affirmations fortes, enfin une affirmation forte qui est assez clivante. Je sais pas, par exemple, les femmes doivent rester à la maison. Enfin, là, je caricature. Mais
oui. Voilà.
Et ensuite, il y a deux pôles qui doivent se former. Ah, pardon. Il y a deux pôles qui doivent se former, l'un pour et l'autre contre cette affirmation. Par équipe, les personnes de chaque pôle doivent préparer une argumentation. Et ensuite, en essayant de ne pas faire des petites conversations dans tous les coins, de ne pas faire des réponses réactives, ping-pong et tout, chaque pôle va exposer ses arguments. Et tout le monde peut changer à n'importe quel moment de position.
Voilà.
Par contre, on ne peut pas être entre les deux. On
c'est
est
ça.
Obligé de se positionner dans l'un ou l'autre des camps.
Physiquement, il y a donc deux groupes, on va dire, qui se font face.
Oui, voilà, qui sont séparés spatialement. On pourrait se dire qu'il y a une ligne de démarcation entre les deux au sol. Et cette ligne de démarcation peut se franchir à l'envi selon les arguments qui ont été évoqués, s'ils n'ont pas changé d'avis, quoi.
Oui. Est-ce que tu as remarqué que les gens sont assez souples, échangent facilement de pôle, ou c'est plutôt le contraire, ils sont plutôt convaincus, on a le droit, hein, bien sûr, hein, c'est pas du tout un jugement.
Moi, j'ai une seule expérience du débat mouvant sur cette thématique, c'était
d'accord.
Celle de Mixter. Donc, je pense que les filles sont plus à même de, enfin, Victor et Mélanie, eux ont vécu plus de débats mouvants que moi, donc auraient plus d'expérience. En tout cas, moi, ce que j'ai vu à Mixter, c'est que on a eu affaire à un public très, qui avait beaucoup élaboré. De penser autour de ces questions-là et du coup qui était assez sûr de lui, quoi.
Ouais.
Enfin, les personnes qui ont participé étaient bien campées sur leur position. Mais après, c'est des choses qui vont s'élaborer avec le temps aussi. Je pense qu'on va apprendre de l'expérience. C'est vraiment, moi, c'est quelque chose qui me plaît dans ce projet, c'est que je sens qu'il est vraiment à construire et à enrichir avec le temps et avec les différentes rencontres qu'on va faire. Et là, par exemple, à Mixter, moi, j'ai oublié de poser la règle d'un petit temps par équipe pour élaborer une argumentation. Ce qui fait que ça a été assez volatile, assez anarchique, la prise de parole, etc.
Oui, en effet, il y a forcément un petit moment de concertation si on respecte la règle du jeu, c'est ça ?
C'est ça, ouais. Ce qui permet en fait aux personnes les plus timides, celles qui ont le plus de mal à prendre la parole en public, de pouvoir quand même, dans son petit groupe, avoir un temps de parole, tout simplement.
Ah, ouais. Et j'imagine aussi que le fait que tu incarnes un personnage... facilite peut-être la prise de parole, on est peut-être moins impressionné.
Ça, je pense qu'au fur et à mesure, je vais le voir.
Ouais.
Mais là, c'était pas dans le cadre de Mixter, c'était pas impressionnant parce que c'était pas du tout spectaculaire. Il y avait très peu de monde. Alors que là, quand on va intervenir au centre-ville, je pense qu'il y a moyen que le fait que ce soit un clown qui anime, ça pèse davantage dans l'atmosphère générale de jeu.
Mélanie et Victor, est-ce que vous pouvez nous faire un retour justement de votre expérience des débats mouvants ?
Alors, moi j'ai l'impression que la plupart des personnes, quand même, au départ, elles ont l'impression que si elles se déplacent une première fois, si elles changent de camp, elles abandonnent leur idée de départ, elles ont la sensation que ce qu'elles pensent au départ, eh ben, on va croire qu'elles ne le pensent plus, alors que non, c'est juste, voilà, si on est convaincu par un argument, ça ne veut pas dire qu'on abandonne son groupe, ça veut juste dire que cet argument-là, il nous touche, et que par son corps, on montre voilà, que ça nous a touchés. Il y a des personnes, ils comprennent assez vite ça, et ils se déplacent, voilà. Mais il y a certaines personnes quand même qui campent un peu sur leur position. Mais je ne sais pas si ça c'est particulièrement français ou pas de débattre beaucoup et de pas vouloir lâcher son morceau, quoi. Mais voilà, je ne sais pas, j'en ai pas fait ailleurs, mais c'est intéressant de leur expliquer qu'ils peuvent aller dans d'autres camps. Il y a pas de ça veut pas dire qu'ils vont abandonner leur idée de départ. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Victor.
Ben, il y a quelque chose de particulier dans les affirmations qu'on propose, c'est que elles sont ambiguës dans le vocabulaire qu'on utilise notamment. Et changer de camp, ça peut vouloir dire changer de définition. Par exemple, il y a cette affirmation les hommes n'ont pas de charge mentale. Et selon qu'on comprend le non pas comme un exclusif ou comme ont moins de charge mentale ou une charge mentale différente, au moment du débat, ben, les gens vont être amenés à changer de côté parce qu'ils ne vont pas définir la proposition de la même façon. Et pour certains, c'est difficile de comprendre que les propositions sont volontairement ambiguës, l'objectif, c'est qu'ils apprennent à le définir et à comprendre les subtilités de ces propositions. Et donc certains ne veulent pas bouger parce qu'ils ont décidé que non pas, ça veut dire non jamais, et certains autres voient moins d'enjeux à avouer que si on le définit de cette façon, alors ils changeront d'avis. Je pense que on disait tout à l'heure que le fait de faire intervenir un clown cassait un peu le stress. Moi, la sensation que j'ai, c'est que ça marche très bien dans la recueillette de paroles. Par contre, au moment du débat mouvant, ce qui fait peur, c'est pas la personne qui est médiatrice, c'est les gens qui sont en face et les gens qui sont dans notre équipe, parce qu'on entend beaucoup. Il y a tout de suite une idée d'équipe, quoi. Que si je pars de l'autre côté, je trahis mes frères et mes sœurs. Il faut essayer dans l'animation aussi de faire comprendre que non, c'est pas un débat gauche-droite, je veux dire, avec deux pôles qui s'opposent. Ils sont censés toujours se transformer. Et ça, je pense que c'est plus dans l'animation qu'on a à le faire comprendre.
Donc, les propos nuancés, finalement, n'ont pas de place. Mais par contre, c'est peut-être par la suite que vous avez pu entendre des gens revenir sur leur position, nuancer. C'est à force de le faire, c'est à force de discuter. C'est ça la force, peut-être, du débat mouvant, non ?
On change, on n'en parle pas forcément après avec les participants et les participantes parce qu'après on change de question, enfin pas de question mais d'affirmation. Voilà, je pense qu'ils en parlent peut-être plutôt entre eux après, s'ils sont plusieurs à se connaître, je pense, et j'espère qu'ils reviennent dessus parce que le but aussi de ce projet c'est que les personnes en parlent entre elles et que ça fasse réfléchir.
Puis même pendant l'échange, on affine en fait. On part sur quelque chose de très cliché et j'ai l'impression que le but de l'échange sur une même proposition, c'est de quitter le côté cliché et d'affiner les propositions pour qu'elles soient... Elles peuvent être nuancées. Je pense que l'objectif, c'est pas de dire que des choses qui sont pas nuancées et plutôt de se rendre compte que, bon voilà, si on parle de telle charge mentale chez l'homme, de quoi on parle, à quel moment, dans quel contexte et pourquoi on la sent différente que la charge mentale que peut avoir une femme. Est-ce que le travail, c'est une forme de charge mentale? Donc au fur et à mesure, comme on rajoute des définitions dans une même proposition, moi j'ai jamais eu la sensation qu'on restait dans des clichés. J'ai l'impression que le moment où l'animatrice décide d'arrêter une proposition, c'est parce qu'on a pu l'affiner à un point presque satisfaisant.
Ouais. Oui, 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 je pense aussi.
Et pourquoi vous avez fait le choix, c'est joli comme mot, recueillette, de cette recueillette et de l'image aussi? Pourquoi ce duo?
Il n'est pas évident, parce qu'il impressionne beaucoup déjà. Enfin, la caméra, peut-être Marie, tu l'as senti, c'est quelque chose qui peut faire peur, déjà parce qu'on enregistre quelque chose, le micro aussi ça fait peur, donc on sait pourquoi on l'a choisi de le faire, mais c'est pas forcément ça peut être contre-productif par moment dans la qualité des recueillettes en fait.
Surtout la caméra, le rapport à l'image est plus difficile. Ouais. Pour les gens, en général.
Toi, tu as pris.
C'est normal, je pense.
Oui, Fadila. Mmh. Ouais.
Ouais. Enfin, je pense que c'est normal, en plus. Parce que du coup, tant que les gens ne se voient pas à l'image, beaucoup plus facile de dire ce qu'on pense. À partir du moment où on sait qu'on va être filmé et qu'on risque d'être vu par d'autres, c'est plus compliqué. Mmh.
Mmh. Faut assumer ses propos jusqu'au voilà, bout et savoir les défendre, quoi. Si
et,
on nous en
et,
parle.
Et du coup, c'est légitime quelque part. Ouais. On est tous un peu quelque part sur certains sujets, un peu comme ça, en se disant bah oui, je le pense fort, mais du coup, tant qu'on voit pas que c'est moi, ça va.
Oui, c'est vrai que oui, comme tu disais, assumer ses propos.
Voilà.
Quoi,
après, hein. Il faut savoir assumer.
Ouais.
Voilà. Et je pense que c'est un sujet qui est tellement alors pour moi, c'est un sujet un peu brûlant quand même, hein, cette question du genre. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à l'inverse ou de leur famille, ou de leur frère, ou de leur mère, ou de leur sœur, enfin, je ne sais pas, ou de leurs amis, mais qui n'osent pas forcément l'affirmer.
Amélia, tu as entendu les propos de chacun ou pas ?
J'ai deviné.
Bravo.
Non, j'entends beaucoup mieux Fadila que Victor.
D'accord. C'est sa voix douce. Bah oui, c'est ça.
C'est-à-dire que moi, j'ai une grosse voix. Du coup.
Une voix de ténor. On évoquait le rapport à la caméra, à l'image, parce que le fait de filmer les débats mouvants, c'est peut-être pas forcément évident pour les gens qui sont filmés. Et je ne sais pas si tu as entendu les propos de Fadila qui disait bah, finalement, quand on est filmé, effectivement, l'image, bah, c'est aussi assumer ses propos. Et ouais. Je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Comment tu as ressenti les choses, même si tu n'as qu'une expérience là-dedans, tu as dû voir des choses.
Oh bah, en fait, je pense qu'il y a plein de filtres qui viennent déformer la pensée des interlocuteurs. Je pense qu'il y a déjà le fait qu'on soit des inconnus, qu'on soit là pour un projet précis et quand même relativement féministe. Il y a plein de choses qui viennent de toute façon potentiellement faire écran entre ouais. L'autre et soi. Du coup, je pense pas que le débat mouvant ce soit le moment le plus problématique parce que il y a une telle. Je pense que quand ça, la mayonnaise prend, les gens peuvent oublier. Enfin, de toute façon, il y a un côté spectaculaire à la chose. Je pense que c'est plus au moment de la recueillette où les gens se livrent davantage sur leur expérience personnelle
oui.
Que la question de l'image peut être plus handicapante. Mais de toute façon, c'est une pratique, cette interview, cet entretien avec la personne, elle est de toute façon intimidante. Et, je pense que la caméra, après en plus, elle se fait... je sais que Victor, il est intervenu la semaine dernière pour aussi transmettre un peu des questions que se pose l'intervieweur. Qu'est-ce que ça change le fait de mettre la caméra à tel ou tel endroit? Est-ce que la personne qui interview tient l'appareil d'enregistrement ou est-ce qu'il s'en écarte? Enfin, y a plein de choses qui peuvent se penser pour atténuer la censure, je pense. Par exemple, j'ai un petit enregistreur et l'enregistreur aussi. Enfin, en fait, le fait qu'il y ait des traces de ce qui est dit, de toute façon, ça peut inhiber. Mais moi, j'ai tendance à l'oublier que j'ai mon petit enregistreur dans la main. J'ai eu la sensation que la plupart des gens que j'interviewais l'oubliaient aussi. Voilà. Il y a des gens aussi qui n'avaient pas eu conscience d'avoir été filmés. Qui ont été informés de la chose après. Ouais. Et donc là, effectivement, se poser la question de... Enfin, ça les a questionnés.
Et du coup, justement, les gens, après, ils demandent où est-ce qu'on peut voir, j'imagine, où est-ce qu'on peut voir le film, est-ce que je peux récupérer les fichiers, est-ce que je peux récupérer les vidéos, non ?
Bah, je pense que ça se joue avec Victor. Je pense que c'est plutôt Victor qui est
Victor.
Au courant de ça, ou Marie.
Non, mais j'ai pas eu l'impression que les gens étaient gênés par la caméra. On n'a pas eu de refus de filmer. Même il y en a qui ne sont pas aperçus qu'on les filmait.
Je pense que c'est beaucoup plus, en fait, dans les idées, comme ça appartient presque à la sphère publique, parce qu'on les échange à table avec la famille, les amis. Ça, c'est pas la sphère publique, mais je veux dire, c'est pas de l'intime, les idées. Et on se plaît à les débattre, à changer d'avis, pas forcément devant les gens, mais le soir en repensant au débat qu'on a pu avoir, la caméra n'est pas forcément un problème. C'est plus quand il s'agit de parler de son expérience du genre personnelle, qui là, pour le coup, peut avoir mis en place des complexes, des traumatismes pour pas mal de personnes. Et du coup, ça, c'est beaucoup plus compliqué de l'aborder. Donc je dirais que les gens maîtrisent bien le fait qu'il y ait une caméra, parce que je pense qu'on en a quand même beaucoup autour de nous, l'image est un peu omniprésente, et savent bien ce qu'ils veulent donner et ce qu'ils ne veulent pas donner. Mmh. Et ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avec Virginie, Mélanie, et surtout Amélia qui pose les questions. Et qu'est-ce qu'on empêche en fait avec la caméra ? Parce qu'on n'empêche pas les gens de parler, ça c'est sûr, ils parleront, et à part de rares occasions où ils disent non, je ne veux pas être filmé, ils le feront. Mais est-ce qu'on a accès à ce qui est le plus problématique, à savoir en quoi ces stéréotypes de genre détruisent des vies ou engagent parfois, gâchent des années de vie ? Ça, on a du mal à le faire remonter parce que ça demande un travail beaucoup plus en profondeur, de confiance avec celui qui filme, celui qui parle, et aussi que la personne, elle, dans sa tête, elle soit prête. Il y a des podcasts aujourd'hui qu'on trouve sur Internet très intéressants où c'est des femmes qui décident d'en parler, mais c'est elles qui font la démarche de dire je vais contacter cette programmatrice et lui proposer de raconter mon expérience. Mais c'est une démarche qu'elles font elles-mêmes. Là, on vient la proposer. Donc je pense que dans les premiers mois, c'est aussi logique qu'on reste en surface. Je sais pas, Mélanie, si tu as eu cette sensation ?
Oui, oui, je pense que quand ça vient pas directement de la personne elle-même, ça peut être un peu délicat de parler de soi comme ça quand on n'a pas été prévenu ou quoi que ce soit. Mais c'est aussi un travail qu'on va faire avec des adhérents et des adhérentes de Mirabeau et de l'ALEP. C'est d'aller auprès de son entourage pour parler de ces questions-là et de filmer des personnes de notre entourage si elles le souhaitent. Voilà, autour de ces questions, plus dans l'ordre de l'intime, si elles sont d'accord avec ça.
On va faire une petite pause musicale et puis on revient sur ce sujet, justement sur les perspectives, hein, comment vous allez travailler dans l'avenir très proche d'ailleurs.
One way.
c'était Blondie, un petit peu de rock'n'roll, ça fait du bien. Mélanie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les projets, les perspectives, les dates enfin bon, on reviendra sur l'agenda à la fin. Dis-nous tout.
Alors, les perspectives, c'est de faire... donc, puisque tout ceci est tourné, enregistré, c'est de faire un film en premier lieu, un documentaire plutôt... avec Victor et des adhérents et adhérentes de l'ALEP et de Mirabeau. Il y a des ateliers qui ont lieu pour apprendre à filmer, pour apprendre à monter ce qu'on a filmé. Et de ce documentaire, il sera diffusé lors de la prochaine semaine L, organisée par la ville de Blois, donc en mars 2020. Déjà. et on espère qu'il sera ensuite diffusé dans des écoles, des collèges, des lycées et d'autres endroits pour pouvoir avoir des discussions avec les gens sur ces échanges-là qui ont eu lieu. Donc ça, c'est pour la partie 2019 et début 2020. Et ensuite, Amélia fera des ateliers théâtre avec des personnes qu'on aura rencontrées à partir des témoignages qu'on aura eus. Pour faire une pièce de théâtre dont elle pourrait vous parler bien mieux que moi sur, oui. Sur ce qu'on essaiera de travailler.
Oui. Amélia, est-ce que justement tu peux nous expliquer ce travail autour du théâtre Alors ça va être très différent du débat mouvant ou tu vas t'en inspirer?
Ah non, rien à voir.
Rien à voir,
ouais. Non, c'est vraiment de... Enfin, en tout cas, moi, j'imagine pas trop les choses en lien. Non, c'est plutôt en lien avec le travail de recueil de paroles. Mmh. En fait, ce qu'on a commencé à réfléchir avec les filles, c'est comment inscrire la libération de la parole autour de nos expériences de construction de genre, en fait, mais de manière assez intime. Donc, on va recueillir les paroles, nous, des personnes qu'on rencontre, mais on va aussi inviter les personnes rencontrées à le faire autour d'elles, que ce soit une sorte de tache d'huile qui se fasse dans le paysage et qu'il y ait une parole qui s'ouvre, qui ne soit pas habituelle. Et du coup, on va aussi encourager différents supports. Il n'y aura pas que le film, il y aura aussi seulement le son. On pourra aussi inviter les gens à écrire leur expérience ou à dessiner leur expérience. Voilà. Enfin, tout ça, c'est à venir, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, en fait, le fait qu'on puisse... que vraiment ça puisse faire tache d'huile dans le paysage blaisois.
Oui.
Les gens se questionnent là-dessus. Mmh. Et du coup, moi, l'idée, c'est qu'à partir des différents témoignages, ou peut-être seulement d'une rencontre, si ça se trouve, ça va être une personne qui va être rencontrée et qui va commencer à livrer un truc tellement fort et symptomatique de ce qui se passe encore aujourd'hui, que ça va être ça qui va être utilisé pour l'écriture. En tout cas, moi, je vais écrire du coup une pièce à partir de cette expérience de recueillette.
Ouais.
Je ne sais pas encore quelle forme elle aura. Et après, je vais proposer aux personnes qui seront désireuses de le faire, quoi, qui auront un petit appétit pour ça, de suivre des ateliers. Donc d'abord, de se former un petit peu au travail de l'acteur. Et puis ensuite, de participer à une mise en scène sur l'écriture que j'aurais faite.
Ouais.
Voilà, donc ça, c'est un peu le projet au long cours qui est super excitant pour moi, en tout cas.
Sur ce thème-là, pardon.
Pardon.
Juste une petite question un petit peu personnelle. Sur ce thème-là, tu as déjà travaillé tu as déjà fait des choses, construit des choses autour de ce thème-là, ou c'est la première fois dans ton travail de clown et d'acteur?
Moi, j'ai fait des pièces exclusivement sur les femmes pour l'instant. Donc, c'est vrai que c'est un peu mon obsession. mais je ne l'ai jamais orienté autour de vraiment la question qui est comment on est construit. Comment on est construit par le langage, par les images, par notre éducation. J'ai jamais pensé mes écritures par rapport à des discours sur ça, sur les constructions de genre, mais plus sur des récits de vie. Voilà. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai beaucoup d'appétit et puis de plus de facilité aussi à me dire que je vais aller interviewer les gens et les amener à être dans des postures de lâcher prise, quoi, lâcher la censure, lâcher le jugement et se laisser aller à dire un peu la vérité sur ce qu'on a vécu, sur la manière dont on s'envisage soi. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais en tout cas, oui.
Mais oui, tout à fait.
la question du féminisme travaille mon théâtre depuis que j'en fais quoi, depuis 10 ans, 12 ans.
Ouais. Marie, vous allez continuer vous aussi dans ce projet, avec la caméra ou avec du son ou...
Ben oui, je pense que je vais continuer, ça m'a bien plu ce que j'ai fait à l'extérieur.
Les auditeurs ne voient pas, mais
si je continue, elle a pas, été menacée. Fadila va me menacer.
Et le travail avec Victor, ça doit être intéressant
aussi.
C'est un
bon professeur.
Hein, c'est un bon professeur. Hein. Victor, donc, comment t'envisages donc, le partenariat, ça va être quoi ton boulot?
L'idée, c'est d'une part, de faire un film documentaire abouti à la fin du projet, qui soit diffusé, comme tu l'as dit, à différents endroits. Et puis, en parallèle de ça, c'est de donner le plus possible à toutes les personnes qui vont suivre le projet, les armes, pour réutiliser après l'image ou le son pour des projets qui leur sont personnels, permettre peut-être à la LEP de continuer à faire vivre un projet ou du contenu vidéo de façon autonome, pour que... parce que bon, l'idée de base autour de ça, c'est qu'on parle de ces questions-là de genre, on n'en parle pas, globalement, on ne parle pas assez, donc... de donner des outils, il y a beaucoup de films qui sont faits par des collectifs féministes ou des films documentaires qui parlent de ces questions-là. Et plus il y en a, plus il y a de spectateurs qui y sont confrontés. Donc c'est à peu près l'idée que Amélia évoquait tout à l'heure de tâche d'huile, quoi. Je sais que à la fin, une fois que le film sera fait, l'idée c'est qu'il y ait des compétences qui aient été acquises chez toutes les personnes qui y ont participé, de près ou de loin, et peut-être l'envie plus tard. S'ils rencontrent quelqu'un qui a une expérience particulière, de réaliser un court-métrage eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, les moyens numériques qu'on a à notre disposition nous permettent de filmer très facilement beaucoup de choses. Et de libérer un peu toutes les questions techniques, comme s'il fallait absolument avoir beaucoup de matériel pour faire un film, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas ma conviction. Et de rentrer dans les questions de mise en scène le plus tôt possible dans les ateliers, pour qu'après, eux puissent... Voilà, pas juste des outils techniques, mais des outils pour penser la création d'un film, quoi.
Mélanie ?
C'est aussi dans cette démarche d'éducation populaire qu'on fait ça. Et voilà, le fait que ça sera réutilisable et réutilisé et que tout ce que les personnes auront appris pendant ce projet et pourront à leur tour... le réapprendre aux autres, c'est aussi pour ça qu'on travaille dans l'éducation populaire.
Mais il ne faut pas que ça s'arrête.
Ça ne va pas s'arrêter tout de suite.
Il faut aller au-delà de 2020.
Ouais, parce que
c'est un combat, déjà millénaire, et c'est un combat de tous les instants. C'est une problématique qui se pose à chacun d'entre nous. C'est vrai qu'on parle du féminisme, et justement, dans ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, c'est quand même plutôt les femmes qui parlent. Qui prennent position ou pas?
Non, pas forcément. Les hommes prennent la parole. Les hommes prennent souvent la parole, de toute manière, pour tout plein de questions. Et c'est intéressant aussi d'avoir leur point de vue, parce que ça les concerne également. Et il y a plein de combats menés par des féministes qui sont des femmes, aussi pour les hommes et aussi pour les petits garçons, pour qu'on arrête de demander aux petits garçons très très jeunes d'être forts et de ne pas pleurer, avec le risque qu'ils deviennent des hommes qui n'arrivent pas à s'ouvrir au niveau de leurs émotions. Et c'est aussi ça, des combats féministes. Le féminisme, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, c'est pas les hommes contre les femmes et les femmes qui détestent les hommes. Non, c'est pour qu'on vive tous dans un environnement plus sain. Et voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça s'arrête, effectivement. Mais mmh. voilà, on n'est pas les seuls à travailler là-dessus et on va pas s'arrêter.
En tout cas, oui, pardon. Fadila. Oui.
Je crois qu'on y travaille tous chaque jour dans nos structures. Nous, à l'Espace Mirabeau, on est un centre social, hein, d'abord. Il y a un travail qui est fait par mes collègues avec les jeunes, beaucoup sur ce sujet. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont très impliqués, ils ont des idées, vraiment, sur le sujet. Et notamment, énormément les garçons. Et c'est ça, enfin, on a vraiment l'impression... Alors bon, effectivement... Des fois, sous les réponses, bon, on se doute que il y a du bon, je vais te faire plaisir, mais pas que. Il y a des choses qui sont vraiment très très intéressantes et où ils s'accordent à dire que ben oui, il devrait pas y avoir autant de différences. Et je pense que le travail, il est là en fait. C'est les jeunes maintenant qu'il faut emmener et avec qui il faut beaucoup discuter. Et ça, c'est un travail de chaque jour, de tous les jours.
Victor ?
D'ailleurs, le terme qu'on a choisi pour ce projet, c'est un peu le genre, quoi, les stéréotypes de genre. Et l'une des premières choses qu'on s'est dit quand on a formé le projet, c'est que les injonctions qui peuvent être faites aux femmes, elles sont très nombreuses, elles sont difficiles à vivre dans beaucoup de cas, mais il y a aussi beaucoup d'injonctions qui sont faites aux hommes, et les faire ressortir, en parler, voilà, cette nécessité d'être fort, d'être entrepreneur... d'avoir un rapport aux émotions qui est particulier et un rapport au corps aussi qui est très particulier, ça permet à plein de personnes de se sentir concernées par ce combat chez la gente masculine. Je veux dire, c'est qu'on questionne le genre globalement, pas aussi des attirances sexuelles peuvent être extrêmement difficiles à vivre, autant quand on est homosexuel femme ou homosexuel homme. Donc c'est pas des questions qui on l'axe pas du tout sur les femmes, quoi. Le féminisme, c'est pas une affaire de femmes. En tout cas, je pense pas. Exclusivement, en tout cas.
Là aussi, il faut déconstruire les clichés sur le féminisme.
Moi, j'ai la sensation qu'on a attiré l'œil des gens sur des éléments qui sont devenus féministes, mais très consensuels, en fait. Sur l'égalité homme-femme, on le réduit parfois juste au salaire, on le réduit à certains éléments du débat, parce que les débats tournent toujours autour de ces questions-là, mais c'est beaucoup plus difficile d'aborder d'autres sujets qui, je trouve, touchent la vie privée autant ou même de façon plus difficile à vivre, comme les questions de sexualité, certaines questions du rapport au corps, du poil. Le poil, les gens ne veulent pas en parler, simplement parce que c'est peut-être qu'on ne met pas le débat assez souvent sur la table, parce qu'il y a encore quelque chose d'hyper tabou à l'idée qu'une femme garde les poils sous ses bras. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a un féminisme consensuel qu'on entend beaucoup et que les gens réutilisent dans les débats mouvants notamment. Mais il y a encore beaucoup de strates du questionnement qui est laborieux d'aborder, je trouve.
Effectivement, c'est des questions qu'on n'a pas encore posées et ça va venir sur ce que tu disais, les poils, sur aussi, c'est une personne qu'on a rencontrée à Mixter qui nous a dit, c'est un projet sur le genre, mais on parle pas de la transidentité, des personnes transgenres, et c'est quelque chose qu'on va peut-être faire apparaître dans ce projet, parce que effectivement c'est quelque chose dont on parle assez peu, et là ça arrive quand même dans les discussions, et je pense que c'est important parce que c'est des personnes qui sont assez invisibilisées dans la société alors que elles existent, et voilà, donc effectivement c'est ce que tu disais, parfois quand on parle de certaines question de féminisme, on nous dit oui, bah, quand même, le plus important, ça serait quand même qu'il y ait une égalité salariale, mais voilà. Et que, voilà. Mais il y a d'autres choses, il y a plein d'autres choses que les gens pensent peut-être futiles, alors que ça ne l'est pas du tout, quoi. Parce que ça touche des gens, et à partir de là, ça ne peut pas être futile si il y a des gens qui sont concernés par ça.
Ça fait partie donc des perspectives de ce projet.
Tout à fait. Hein.
Amélia ?
Oui.
T'es toujours là. Oui. Ah, ouf. Oui, on va terminer cette émission. Est-ce que tu peux nous dire ton actualité artistique ? Est-ce qu'on peut te voir quelque part, pas trop loin de Blois, Tours, puisque tu es basée à Tours, et dans quel contexte ?
Là, je suis en ce moment même en résidence au théâtre de Vaugarny sur la nouvelle création de ma compagnie qui s'appelle Même pas mal, ou l'évangile d'une petite reine, qui parle d'ailleurs du coup d'un évangile dont le Messie est une femme, ce qui est un peu le point de départ de la pièce. Et
tu veux vraiment t'attirer les ennuis, toi, hein ?
Je veux m'attirer les ennuis, tout à fait. Et du coup, là, on fait un... Donc là, on est juste en résidence de créa. On va pas faire de date. Mais après, les gens, ils peuvent aller voir sur le site de la compagnie Ragbag. On a aussi un solo de clown qui s'appelle Même pas peur, qui peut se tourner chez les gens, qui va jouer chez des particuliers à côté d'Amboise au mois de juillet, etc.
Bon. Voilà. Et ta participation au projet avec la lettre.
Et donc à partir de... Si, ça ce serait bien de le dire quand même, c'est que ouais. Mardi prochain, le 25 ou le 26 25
Le 25.
Je reviens à Blois pour une après-midi consacrée vraiment à l'entretien... à l'entretien... Enfin, juste à la discussion avec quelqu'un pour ouvrir un peu un espace de dialogue intime autour de la question du genre. Pour que les gens sentent plus outillés, plus armés pour aller questionner leurs proches, leur entourage.
Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu seras avec ton enregistreur en centre-ville ?
Non.
Non ?
Non, je serai à Mirabeau, à l'espace Mirabeau, avec des adhérents, des adhérentes. Et en fait, on va juste parler de comment écouter l'autre pour permettre à l'autre de se dévoiler, quoi. Voilà. Et après, je vais avoir des entretiens personnels avec chacun d'entre eux, j'espère.
Oui, c'est ton souhait, un face-à-face.
Oui, moi j'aimerais bien faire un face-à-face pour que chacun puisse... Bah, déjà, moi, pour avoir de la matière audio, je vais pouvoir récolter des paroles. Et puis aussi pour faire éprouver aux personnes qui auraient envie d'aller questionner leur entourage, qu'est-ce que ça fait, quel bien ça fait, qu'est-ce que ça vient modifier de réfléchir de manière un peu désarmée à notre expérience.
Merci Amélia. Mélanie, tu peux nous en dire plus justement sur l'agenda, ouais. Le 26 juin.
Alors juste le 25, c'est tout juste ce qu'a dit Amélia. Juste, ça ne sera pas à l'espace Mirabeau, mais à l'espace Quinière à l'Alep. Voilà,
d'accord.
C'est juste quartier ouest et pas quartier nord.
Ok.
Voilà, donc le 25 de 14h à 16h. Le lendemain, le 26, on sera en centre-ville en partenariat avec la Fabrique, qui est un espace jeune de la ville de Blois, pour faire la recueillette de paroles et le débat mouvant un peu sous forme de radio, parce qu'on a un collègue de la Fabrique, Aurélien, qui a tout le matériel pour faire une radio. Donc voilà, ça sera un format un peu différent. Donc en centre-ville de 14 à 18, il me semble le 26.
Oui, donc vous interviendrez effectivement sur le pôle convivialité sur Quartier d'été. Donc Quartier d'été, c'est un événement qui a lieu chaque année dans les quartiers nord, pleine Montesquieu, en face de la place Lorgeau, et qui dure du 3 juillet au 11 juillet. Donc tous les après-midi et ce jusqu'à 20h, avec beaucoup d'animation, beaucoup d'activités, et de la radio et des concerts.
Voilà. Et nous, on sera donc les 9 et 10 sur cette période-là, en recueil de paroles et en débat mouvant avec ce projet.
Et
oui, Amélia. Oui, Amélia, on t'écoute.
Oui, c'est aussi qu'on avait évoqué, après, à quel terme, je ne sais pas, mais de faire aussi une plateforme Internet qui permettrait en fait, de rendre le projet... présent en permanence sur la toile avec de la publication de podcasts audio, enfin comme ça une sorte de plateforme qui serait alimentée au fur et à mesure par la matière qu'on viendra récolter.
Mais oui, voilà. C'est... Bah, Victor en parlait tout à l'heure, que ce soit effectivement en ce qui concerne tes films, hein, Victor, que ce soit à disposition.
Alors, c'est pas tout à fait ça.
Vu que j'entendais rien de ce qu'il disait.
Voilà. Ouais. Non, mais alors apparemment, c'est pas tout à fait
c'est...
ça. Parce que, moi non plus, j'entends rien.
Amélia parle, c'est plus le contenu écrit ou podcast. Le film documentaire, il sera pas diffusé sur Internet, il sera diffusé que dans des salles où il va y avoir un échange. Et où un espace de bienveillance, je dirais, parce que voilà, l'image sur Internet, c'est pas quelque chose d'évident. Par contre, oui, les podcasts, les écrits, on a déjà une plateforme que tout le monde peut rejoindre, Discord, dans laquelle on échange et on parle des projets, comment ça avance. Toutes les personnes qui sont intéressées par ce projet peuvent nous rejoindre sur la plateforme Discord. D'autre part, Amélia, elle parlait probablement de plateformes sur SoundCloud ou sur des sites qui s'occupent de diffuser les podcasts. C'est ça, Amélia, je sais pas si tu m'entends.
Si, bah, des podcasts, mais aussi on avait évoqué l'idée de pouvoir faire des témoignages écrits, ouais. Que ça puisse être une plateforme audio, effectivement, mais aussi si les gens ont envie de publier du contenu écrit,
voilà.
Des photos, des dessins, enfin...
Ouais, du coup, ce serait pour avancer, pour voir comment évolue le projet, il faudrait nous rejoindre sur le Discord et puis...
On mettra le lien sur le site de Studio
oui.
Zef.
Hein, ouais,
voilà, vous nous donnerez ça. Amélia, tu nous donneras aussi tes liens hein, de ta compagnie, etc. On mettra tout okay. ça. Hein. Un petit mot sur les partenaires et les gens qui vous soutiennent.
Oui, alors c'est ça. On a déposé un dossier contrat de ville qui a été retenu et accepté. Donc on remercie tous les partenaires et les financeurs du contrat de ville. On remercie également les partenaires avec lesquels on a déjà fait des débats mouvants et du recueil de paroles, la LCV, la Fabrique à venir et tous ceux qui vont arriver, la Maison de Bégon, ben, Mirabeau. Effectivement, qui est notre partenaire principal dans ce projet. Merci à Amélia et à Victor, évidemment, et à tous les adhérents, adhérentes et bénévoles qui vont nous rejoindre, qui souhaitent nous rejoindre sur ce projet. Et merci tout particulièrement à la ville de Blois pour son soutien. Voilà, on a pas terminé ce combat-là. Et,
Merci à tous et à toutes. Amélia, merci beaucoup de t'être rendue disponible. Voilà.
Avec plaisir, désolée, parce que du coup, ça fait des petites complications.
Il n'y a pas de souci. Je pense qu'on t'a très bien entendu et les auditeurs aussi, donc il n'y a pas de souci. Je rappelle que cette émission est podcastable sur le site de studiozef.fr. À très bientôt à la radio. Congo. 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 Gozo. Gozo. Gozo ya ni da zo gozo ya gozo ya gozo ya ni da zo gozo ya gozo ya gozo ya. Take a look at these hands.
the heat goes on, and the heat goes on, and the heat goes on, and the heat goes on, where the hand has been, and the heat goes on, and the heat goes on.